Midi 22, c'est 17 degrés sur Québec. On est gâté niveau température et ça va s'améliorer dans les prochaines heures et ce jusqu'à lundi soir, les amis. Donc, nuageux pour aujourd'hui avec un maximum de 17. Demain samedi, nuageux avec des alternances de soleil-nuages, un maximum de 18 degrés. Dimanche, ensoleillé, ça monte à 23 degrés. Et lundi, si on en croit Environnement Canada, ça pourrait être ensoleillé toute la journée avec un maximum de 27 degrés.
Le bonheur.
Fait beau, on sent les maillots?
Oh,
ouais,
yes.
Mais peut-être pas dans la cour avant de la maison. Là.
Non? Ben pourquoi?
Il y en a dans le temps qui faisaient ça, puis se faisaient bronzer aussi. Mais j'avais une voisine, feu cette voisine exceptionnelle, qui était très connue des petits voisins dans le temps, parce qu'elle se faisait bronzer sur son entretoit. Mais elle aimait pas ça des démarcations de maillot.
OK! Fait que là, il y a les petits voisins, ouais, c'est
parce
ça.
Que tu penses que t'es au-dessus de tous, ouais. Mais des fois, t'as comme un troisième étage dans une maison, là.
Oui!
Deuxième étage.
Elle savait-tu?
Elle sait pas.
Des fois, ils savent. Des fois, ils savent. Hey, un article hyper intéressant sur le site de Radio-Canada. On parle des vapoteuses à cannabis qui sont de plus en plus populaires chez les jeunes. On dirait que le cannabis a commencé à être peut-être un peu moins un danger au niveau de la population à partir du moment où le gouvernement du Québec a décidé qu'on allait avoir des SQDC. Ça se peut-tu?
Je sais pas, mais ça, c'est une lubie, là.
Si le gouvernement en vend, c'est pas grave, c'est testé, c'est tout...
Non, mais ça, c'est mentir à soi-même, mais c'est une lubie incroyable.
Ouais. Parce que le cannabis peut être nocif, mais l'alcool peut être nocif aussi.
Ouais, oui, ça dépend comment t'en prends. Mais quand même, le cannabis, là, c'est très addictif aussi. Là.
Mais là, on parle justement de ces vapoteuses-là qui servent à fumer du cannabis et ça fait en sorte que ça peut être plus concentré puis, avoir du trouble avec ce qui se passe dans ton cerveau.
Ben, oui, puis surtout quand t'en prends dans ton âge de développement, là, c'est là où c'est vraiment critique. Puis souvent, quand tu commences à tester certaines drogues, c'est dans ton âge de développement, de ton affirmation de toi, de ton... Puis les vapoteuses, Yannick, ce que je remarque chez ceux qui fument puis qui mettent du cannabis dedans aussi,
oui.
C'est tellement rendu un réflexe que t'en consommes encore plus que quand tu mettais à « grinder », comme on dit en anglais, là, à égrainer ta cocotte, puis après ça, faire ton joint.
Mais c'est ça qu'on appelle des « wax pens ».
Non, c'est pas la même chose.
C'est pas la même affaire.
Non.
OK.
Mais
bref,
ça aussi, ça existe, puis ça aussi, c'est problématique.
Et voilà.
Tu sais, à mes yeux, à moi, il y a autant de problèmes avec l'alcool que tu peux avoir de problèmes avec le cannabis. Mais pour en avoir le cœur net, on va aller rejoindre un des spécialistes qui est un docteur. Son nom, c'est Richard Bélanger. Je vais essayer de lire son titre au complet. Là. Je ne sais pas si sa carte est aussi longue. Directeur, chercheur clinicien et professeur adjoint à l'Université Laval au département de pédiatrie. Monsieur Bélanger, merci d'être là. Bon midi.
Bon. Bonjour, je vous rassure, ma carte est aussi grosse que les autres.
C'est juste qu'ils ont écrit plus petit dans le titre, c'est ça?
C'est exactement ça.
Ouais. Est-ce que vous avez constaté, vous aussi, que les vapoteuses semblent être un problème auprès des jeunes qui utilisent ces vapoteuses-là pour fumer de la marijuana?
Je pense que vous avez fait une très belle introduction, autant des questionnements que les jeunes se posent et de leurs parents, en fait, en lien avec les produits liés au cannabis, puis particulièrement les produits concentrés qui peuvent être vapotés par les jeunes.
C'est celle-là, là, c'est wax pen. Là. Ça, c'est les concentrés, c'est celle avec le liquide qu'on appelle la wax pen. Là.
Exactement. C'est le terme, je vous dirais, générique pour parler de vapotage chez les jeunes de produits cannabinoïdes. Hein? Plusieurs produits peuvent être vapotés, mais vraiment, ce terme-là, c'est le terme générique que les jeunes utilisent entre eux là, pour parler des cigarettes électroniques qui contiennent des produits concentrés du cannabis. Donc, il n'y a pas d'erreur. On parle de manière très large, en fait, de vapotage de cannabis. Puis, vous avez tout à fait raison de dire que, malheureusement, je vais insister sur ce terme-là, on voit de plus en plus de jeunes s'exposer au cannabis par le vapotage, bien que l'utilisation du cannabis est à des niveaux inférieurs à ce qu'on a vu dans les années 90, par exemple.
Intéressant.
Ben oui, exactement.
Intéressant. Est-ce que vous constatez une multiplication des consultations auprès de ceux qui en ont consommé de la marijuana?
On a vu une hausse dans les consultations à l'urgence, une hausse dans les hospitalisations sur des sujets assez précis, hein, des impacts négatifs liés au vapotage du cannabis et à l'usage de manière générale du cannabis. Puis on s'inquiète en fait, puis l'idée qu'on se fait à propos de ces consultations aux urgences, de ces hospitalisations-là, c'est probablement en lien avec la hausse de la concentration des produits du cannabis, hein, la hausse du THC à l'intérieur des produits. Puis là, on en revient à l'avant-plan sur les modes de consommation, compte tenu que le vapotage, lui, est en hausse, compte tenu que le vapotage de cannabis, lui, est clairement en hausse, et que les jeunes s'exposent à des produits de plus en plus concentrés avec ce mode de consommation-là. Donc, 1 plus 1 égale 2 pour nous. À partir de ce moment-là, on se dit que c'est probablement en lien avec ces concentrations-là élevées que les jeunes se ramassent plus à l'intérieur de nos urgences.
Doc, pour ceux qui se ramassent à l'urgence avec des problèmes d'anxiété, des problèmes peut-être un peu plus graves, là, des psychoses, même des vomissements, est-ce que c'est temporaire ou ça peut être à moyen et long terme?
Vous avez exposé plusieurs complications possibles. Hein. Il y a des intoxications qu'on dit aiguës, hein, qu'on peut avoir avec plusieurs types de substances. On parle du cannabis, mais vous avez nommé l'alcool à l'intérieur de votre introduction aussi. Hein. Il y a des jeunes qui se ramassent à l'intérieur des urgences de la grande région de Québec ou bien non de la grande région de la capitale nationale qui se ramassent intoxiqués. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être temporaires. Vous avez aussi décrit des vomissements. Il y a un syndrome, hein, donc une situation qui est véhiculée malheureusement par des jeunes qui s'exposent de manière chronique au cannabis, qui peuvent avoir des grandes périodes de vomissement sur plusieurs jours, quitte à se déshydrater. Ça aussi, on pense que c'est temporaire, mais ça peut juste se régler avec la cessation du cannabis. Mais vous avez aussi parlé de problématiques de santé mentale, d'anxiété, même de psychose. Ça peut être le début de maladies chroniques de santé mentale, puis ça peut influencer les trajectoires de vie, en effet, de manière défavorable.
Ouais, vous comprendrez que j'ai malheureusement pas vos études, mais il y a des psychoses régulières, il y a des psychoses toxiques. Si on en fait une, ça veut dire qu'on est susceptible d'en faire peut-être une deuxième, peut-être une troisième, c'est ça?
Oui, donc les connaissances que vous avez, c'est les connaissances qu'on a aussi. Oh. C'est peut-être de manière un peu plus pointue en même temps.
Êtes-vous en train de me dire que je pourrais gagner plus cher?
Je vais vous laisser voir ça avec votre équipe.
Mais moi, je vais dire non, ça me dérange pas.
C'est ça, c'est ça.
Mais vous voyez, tant qu'on est chercheur, on est toujours assez nuancé. Hein? On se fie sur la science. Puis ce que la science nous indique, c'est que vous avez raison de dire qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir consommé du cannabis pour avoir une maladie émotionnelle, mentale, comme la psychose. Mais on voit de fortes associations entre les psychoses et l'utilisation de substances, particulièrement le cannabis.
Je lisais ce que Dr Marie-Ève Morin mentionnait dans l'article de Radio-Canada, puis elle mentionnait qu'il y avait certaines substances qui contenaient jusqu'à 30 % de THC. Est-ce que les jeunes, quand ils consomment ça, sont vraiment en mesure d'évaluer le pourcentage de THC qu'il y a à l'intérieur du produit?
C'est très, très, très difficile pour les produits illégaux d'être capable de savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Vous parlez de concentration de THC qui tourne aux alentours de 20-30 %. Ça, c'est les niveaux actuellement disponibles en vente légale pour les produits les plus concentrés de cannabis séché, hein, ce qu'on appelle la marijuana. Hein? Donc, vous voyez que c'est assez différent du taux moyen de THC qui devait tourner dans les années 70 à 1-2 %. Hein? On est à des chiffres bien plus. Tant qu'on parle du wax pen, tant qu'on parle d'autres produits concentrés du cannabis, les huiles par exemple, la wax, la shatter, on tourne parfois jusqu'à des 70, 80, 90 %. Donc vous voyez, on n'est pas dans la même game qu'on était dans les années 70.
L'industrie du vapotage n'existe pas malheureusement depuis 50 ans, ce qui fait en sorte que la science, elle, se fie sur l'effet exemple du vapotage sur plusieurs années. Est-ce qu'elle est assez vieille, cette industrie-là, pour avoir des études formelles qui mentionnent à quel point ça peut être néfaste, le vapotage, pour le corps humain, que ce soit pour de la glycérine, je pense, ou encore que ce soit pour la marijuana? Est-ce que la science est en retard dans ce dossier-là?
La science est en retard. Vous avez tout à fait raison, encore une fois. Donc,
ma collègue, c'est trop pour moi.
Je l'alimente, hein, je fais son vendredi.
Ah ouais. Je suis en train de gonfler, docteur.
Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on avait de très bonnes connaissances qui nous a amené comme milieu médical, milieu de la santé publique, d'être très proactif sur un produit comme la cigarette, par exemple. Mais ces acquis-là semblent être moins solides pour ce qui est du vapotage, autant du vapotage de produits nicotiniques que du vapotage de produits du cannabis. On est en étude actuellement dans la grande région de Québec puis dans l'est du Québec, uniquement dans le suivi de la fréquence de consommation, des dépendances qui sont des impacts qu'on connaît déjà avec les produits que je vous ai mentionnés. Mais quel est l'impact au niveau respiratoire? Quel est l'impact au niveau cardiaque, au niveau de la santé mentale? Il y a une étudiante qui travaille avec nous au centre de recherche VITAM qui s'appelle Audrey Payette, qui va présenter des résultats de sa recherche à Vancouver, qui voit que les jeunes qui vapotent de manière importante, fréquente dans les 12 derniers mois, rapportent un moins bon état de santé physique puis un moins bon état de santé mentale. Okay. Ça ne veut pas dire que c'est causé directement par ça, mais on voit une forte association. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça nourrit nos inquiétudes comme cliniciens et comme chercheurs.
Docteur Bélanger, il y a quelque chose moi qui me concerne beaucoup parce qu'en psychologie, je l'ai étudié un petit peu, puis c'était dans toute cette phase développementale où le jeune, bon, se teste avec des drogues. C'est normal, on a tous passé par là, pas nécessairement tester des drogues, mais essayer de se découvrir, essayer d'avoir des sensations, de vivre des choses, mais ça reste quand même le moment le plus néfaste et le plus inquiétant dans le développement, dans la consommation de drogue, parce que là, t'arrêtes de te développer à ton plein potentiel, puis ça peut laisser des impacts importants. Est-ce que ça aussi, on devrait avoir peut-être une vigilance supplémentaire en tant que société?
Je vous rassure aussi, vous avez tout à fait raison par rapport à ça. Hein? Donc, à partir de ce moment-là, cette période-là, elle est critique. C'est à ce moment-là où les comportements de santé s'établissent, parfois pour le restant de la vie. Ça ne veut pas dire que nos comportements ne changeront pas. Puis, j'insiste sur les efforts des jeunes et des familles qui font face à des problématiques de consommation. Les interventions qui sont mises en place peuvent vraiment amener des trajectoires favorables pour la santé. Mais on souhaiterait tous que nos jeunes ne commencent pas dans ce chemin de la consommation, parce que ça augmente les risques d'avoir des parcours autant de santé que des parcours de vie qui sont plus chaotiques. On n'est pas obligé, en fait, de s'exposer aux substances. Il y a bien d'autres manières d'expérimenter avec la vie et d'expérimenter avec le thrill. Le sport en est un très bon exemple.
J'ai sorti deux commentaires qu'on a eus par texto. Doc, au 418-971-1021, vous êtes chercheur clinicien et professeur adjoint à l'Université Laval au département de pédiatrie. Le premier commentaire, c'est « Bonjour, Doc, j'ai fait une psychose en 2022 et je fumais en moyenne 28 grammes de pot par semaine. Je consommais du sativa à 25% et je peux vous garantir que la psychose a été causée par ma consommation. Depuis, heureusement, je ne consomme plus et je n'ai plus aucune rechute côté psychose. » France qui nous écrit « Bonjour la gang, petite question pour votre invité. Qu'en est-il de la consommation de cannabis médical? Est-ce qu'on peut être exposé au même risque? »
Oh, ça, c'est une grosse question, la deuxième. Je tiens à remercier le témoignage de la première personne, en fait, puis bien content que sa vie évolue positivement, puis c'est un beau message, en fait, qui incite à revoir ses pratiques de consommation. C'était des bien grandes quantités auxquelles cette personne-là s'exposait, puis ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, faut faire attention parce que nos études sont particulièrement posées sur l'usage récréatif de cannabis avec des produits, en fait, qui, par le passé, n'avaient aucun contrôle. Donc, c'est assez difficile d'être capable de traduire le tout autour de l'usage du cannabis à visée médicale, particulièrement autour des produits qui sont actuellement disponibles à cette patientèle-là, qui sont parfois très ciblés avec des concentrations différentes, autant de THC que d'autres cannabinoïdes. Donc, est-ce que nos études sont très loin de ce côté-là? Pas très loin non plus, malheureusement.
Doc, merci beaucoup de vos éclaircissements sur le sujet.
Avec plaisir. Puis je vous redis, je pense que vous avez des bonnes impressions. Continuez, puis bon vendredi à vos auditeurs.
On va essayer de passer dans la porte en sortant du studio tantôt, Doc.
Bye-bye.
Bye-bye, merci.
Ah, est-tu intéressant, M. Bélanger?
Wow,
il l'est, puis pas à peu près, Dr. Richard Bélanger, qui est chercheur clinicien et professeur adjoint à l'Université Laval au département de pédiatrie. Puis l'idée, c'est pas de dire arrêtez de prendre ci, arrêtez de prendre ça.
On veut pas démoniser non plus.
Ouais.
On est pas
Moi, ce qui me touche un peu plus, c'est que c'est les enfants. Les enfants qui s'achètent des vapoteuses, qui utilisent des produits dont ils ne connaissent pas nécessairement la concentration en THC. Puis ces enfants-là peuvent, un certain pourcentage, peuvent se ramasser à l'urgence avec des psychoses toxiques, puis développer des problèmes de santé mentale à vie.
C'est d'être conscient de ce qu'on prend, finalement.
Mais tu ne l'es jamais vraiment. Puis en ce moment, mettons qu'on sort de la vapoteuse, il y a aussi toute cette consommation de drogue-là. Puis Yannick, j'en parlais hier avec la gang du bureau parce qu'on est allé prendre un verre, on avait 5 à 7 avec la gang. Il y a quelque chose qui se passe depuis quelques années, puis c'est de se faire offrir sans cesse de la drogue, mais de manière là, comme s'il n'y avait pas de... Il n'y a pas de préjugés, il n'y a rien. C'est une grande ouverture. C'est comme si je te demande si tu veux un verre d'eau. Puis ça me fascine.
Okay. Moi, je te l'ai déjà dit, Pascal, là, c'est peut-être en raison de ma face, ils disent lui, il est assez intoxiqué ou assez fucking même. Je me suis jamais fait offrir de la drogue.
Mais tu sors pas beaucoup non plus.
Ben oui, je sors. C'est juste que je sors pas avec toi. Puis j'en parle pas.
C'est une drôle de corrélation. J'ai l'impression d'avoir une phase de drogué.
Ou deux, trois semaines, je sors, puis je me suis jamais fait offrir ça.
Tu t'en vas au resto avec ta blonde, tu t'en vas avec. Quand tu te mets à sortir, mettons, avec une gang de. Puis là, il y a les amis des amis, puis là, les amis des. Puis
ça. T'en fais offrir comme si c'était un verre d'eau.
Puis avant, là, je te jure, puis avant, admettons, c'était beaucoup plus à Montréal quand tu sortais. Puis là, c'était dans les 10 dernières années. Mais je trouve que c'est rendu commun. Puis moi, je me dis, un jeune ou une jeune... Moi, j'ai 30 ans. Là. Je vais pas commencer à prendre de la drogue. Puis je vais pas commencer à me sentir cool parce que j'accepte quelque chose. Mais si je repense à la petite Pascale, à l'adolescence, je sais pas, moi, tout le monde en fait ou autre. Je sais pas si c'est une influence X, mais si c'est si facile et accessible, puis en plus, dans les proportions qu'on connaît, là, entre autres, cocaïne ou X, peu importe comment c'est produit, tu sais jamais ce qu'il y a dedans. Dans tout ce qui est chimique, tu sais jamais ce qu'il y a dedans. Puis il y a certains collègues qui se sont confiés aussi là-dessus hier en disant « Hey, je sais, j'ai remarqué la même chose. » Je sais pas si c'est justement où je me tiens, mais en même temps, je me tiens dans des endroits bien différents, avec des personnes bien différentes. Je trouve juste que c'est rendu même un peu inconnu d'une deuxième personne que tu connais qui ose t'offrir ça. C'est plus caché.
Ah, je comprends. Moi, j'essaie juste de ne pas être dans le jugement dans ce dossier-là. Puis, tu sais, c'est important parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit en disant « Ouais, mais l'alcool peut être aussi pire. » Savez-vous quoi? Vous avez absolument raison. L'alcool, la drogue, c'est à peu près la même affaire.
Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, Pascal, est-ce que tu es offusqué si on t'offre un verre? » Tu sais?
C'est ça. La raison pour laquelle, moi, j'en parle, c'est que ça touche les enfants qui, avec leur fameuse vapoteuse.
Ouais.
Tu sais, puis de voir des enfants arriver à l'hôpital aux urgences en psychose toxique alors qu'ils ont 14-15 ans. Tu sais, pour vous autres, pour nous autres, en fait, je m'inclus là-dedans, on ne voit pas ça. Là. On les voit pas, nous autres, arriver à l'urgence. Mais quand on jase avec des médecins, quand on jase avec des infirmières, quand on dort avec une infirmière, on entend parler de ces affaires-là, puis on se dit, bon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Les jeunes qui vapotent, puis ils se mettent dans le corps des trucs qui ne sont pas capables de mesurer les effets à court, moyen et long terme. Puis il s'agit d'une seule fois, pour ce qui est de la wax, là, que tu prennes pof, puis ça se peut que tu te ramasses à l'hôpital en psychose toxique, puis ta vie, ta santé mentale va être hypothéquée jusqu'à la fin. C'est d'une tristesse, puis c'est pour ça que j'en parle. Je répète, je suis pas dans le jugement pour ce qui est de l'alcool et de la drogue. Moi, c'est plus pour les vapoteuses, pour nos enfants. Informons-le. Puis l'article que je faisais référence tantôt, il est disponible sur le site de Radio-Canada. Si vous êtes capable de faire lire les passages de cet article-là à vos enfants qui utilisent la fameuse vapoteuse, puis que vous savez que quand ils viennent à la maison, des fois, ça sent un peu à moufette, c'est pas la moufette.
On sentait récemment, là, c'est tellement bien fait, là, on sentait tellement le beurre d'arachide dans notre gang. On se disait, qui c'est qui est en train de se faire des petites biscottes au beurre d'arachide aux 15 minutes? Puis on s'est rendu compte que c'est la vapoteuse d'une des personnes dans la gang qui sent le beurre de pinot. Un parent peut être leurré et complètement biaisé d'une utilisation de vapoteuse. Là. Ça sentait le beurre de pinot, point. Ça sentait pas la moufette. Ça sentait les ajouts que tu peux faire là, peut complètement faire passer en dessous de la table une consommation. Là. Puis tu dissociais nos discours, mais il y a une corrélation malgré tout. L'accessibilité et la non-gêne de proposer aux autres, ça fait aussi partie de ces psychoses-là qu'on voit à l'hôpital parce que le jeune qui essaie ne connaît pas sa limite, il n'a jamais rien fait. Il se fait proposer, il fait comme les autres, il en prend autant que quelqu'un qui en a pris dans les dernières semaines.
Je ne suis pas certain qu'en majorité, les jeunes en bas de 18 ans se procurent ce stuff-là directement à SQDC. D'après moi, c'est carrément sur les sites Internet, à l'Ouest canadien, aux États-Unis aussi. Quoique aux États-Unis, ça doit être un peu plus dur de se le faire livrer. D'après moi, ça devrait avoir un petit blocage aux douanes. Mais pour ce qui est de l'Ouest canadien, c'est très facile.
Puis tu as aussi des fois l'ami qui en a tout le temps, à qui tu donnes des sous, puis que c'est lui qui te fournit. Là. Ouais. Tu le vois tous les jours
comme
à l'école.
Comme le monsieur qui nous sortait notre caisse de bière quand on avait 15 ans.
Oui, mais lui, il revenait pas. Richard, là, c'était une fois Richard, l'autre fois Gaétan.
Richie Rich! midi 42, Tom.
Ouais, circulation. On a plus de détails en lien avec ce qui s'est passé du côté de la 40 en direction est, dans le secteur de l'avenue Legendre. C'est un camion, comme on disait, qui a percuté un viaduc là, sur l'autoroute Charest un peu plus tôt ce matin. Ça s'est passé vers 10h30, puis c'est carrément ça. La benne derrière le camion, le contenant derrière était levé. Donc, c'est là que ça a fracassé, ça a touché directement le viaduc. La femme qui est à l'intérieur n'a pas subi de blessure, mais a dû être transportée à l'hôpital en état de choc. Donc, c'est ce qu'on a comme information. Et des ingénieurs du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui sont sur les lieux pour analyser la structure qui a été percutée de plein fouet. Puis encore une voie des trois, la voie de droite qui est fermée en lien avec ce qui se passe dans ce secteur-là. L'accident qui a causé d'importants ralentissements. Pour l'instant, ça va quand même mieux. Puis je vais faire le tour de la circulation parce que c'est difficile en ce moment sur les routes. Laurentienne direction sud, embranchement pour aller chercher la capitale en direction ouest, c'est au ralenti. Capitale ouest, un ralentissement entre Henri Bourassa et la Laurentienne. En est, cette fois-ci, la capitale, il y a un ralentissement entre Lormière et Robert Bourassa. Entrée du pont Pierre-Laporte en direction sud via Duplessis et via Henri IV, c'est difficile. Sur Henri IV, le ralentissement qui commence à partir du chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée du pont. Et sinon, sur la rive sud, en direction 20, de la congestion en direction ouest entre la route du président Kennedy et l'avenue Taniata. Et en est, c'est à partir de la sortie du pont jusqu'à, je vous dirais, le chemin des îles. Si vous avez d'autres informations, 88-971-1021. Mais c'est difficile sur les routes en ce vendredi.
Pour ce qui est du camion Ben qui a oublié sa benne en l'air, trois hypothèses. La première, c'est que il y a eu une dysfonction là, au niveau du système. La deuxième, c'est que le camionneur avait carrément désamorcé l'alarme qui te dit que tu as oublié ta benne dans les airs. Puis la troisième, c'est qu'il l'aurait peut-être pas entendu.
Ah, les trois. Et voilà, les trois hypothèses sont lancées.
Ben, moi, j'ai un de mes chums, Chalut Benoît Terrien, qui m'avait dit dans le temps, il y a le signal sonore, puis en plus, il y en a qui ont des flashs.
Il y a des auditeurs qui me disaient, voyons, moi, je l'entends là, quand ma benne est levée.
Oui, ça doit osciller, là, mais en plus, il y a des camions qui ont des flashs. Fait que si jamais tu n'entends pas, ben là, le flash dans ton camion, c'est sûr que celui-là, tu le vois. Fait que, est-ce qu'il l'a désactivé? S'il l'a désactivé, c'est une lourde sentence pour lui. Là. Il se ramasse les dents dans le dash. Là.
Mais il y en avait un autre qui s'est arrivé aussi là, à l'automne.
C'est arrivé à Québec il y a de ça quelques années.
Non,
je
non,
me trompe
quelques
pas.
Mois, Yannick.
Ouais.
Quelques mois.
Où ça?
On avait même mis la photo là, sur la page Facebook de Boulevard 102.1.
Je sais que c'est arrivé à Québec il y a de ça quelques années. Montréal, ça arrive deux, trois fois par année, certains. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de décès et que l'infrastructure ne soit pas trop scrap. Mais bref. OK. Hey, on va faire une courte pause, les amis.
1er février 2023.
C'est à quel endroit?
Je te le dis à l'instant.
C'est vrai,
l'article.
C'est pas longtemps.
Je m'en rappelle de ces affaires-là.
Mais ça me dit quelque chose aussi que ça va arriver. Ça... pas long. C'est quel secteur?
Tu n'aurais pas aimé mieux qu'on fasse une pause et que tu nous reparles de ça après?
Ben, vas-y, mais fais-là ta petite pause. Vas-y, mon champion.
C'est la misère avec ton internet?
Au ben, c'est celui du bureau, tu le sais.
OK. Midi 45, on vient. Marceau, le midi.